This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui scrute avec l'intense vigueur permise par les limites de sa myopie congénitale les productions d'où qu'elles viennent, et même si on pourra nous objecter que nos goûts nous portent régulièrement à nous intéresser d'abord à ce que proposent nos cousins d'outre-Atlantique, il n'en demeure pas moins vrai que c'est avec le même entrain que nous guettons ce qui se fabrique de l'autre côté de la planète, en Asie, où vit et bouillonne un cinéma tout à fait unique, avec des projets aussi singuliers que par exemple When Cut of the Dead, dont on va causer là tout de suite avec un quatuor d'amateurs du démasticage de zombies, Arnaud Bordas. Salut Arnaud.
Salut Thomas.
David Honora, salut David.
Salut Thomas.
Stéphane Moïse. Salut Stéphane.
Salut Thomas.
Et Perrine Quetson, salut Perrine.
Salut Thomas.
C'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
One Cut of the Dead, ne coupez pas, en VF, super titre en VF, nous emmène donc au Japon, dans un entrepôt désaffecté de la Seconde Guerre mondiale, où s'est installée une équipe de tournage amateur avec l'idée d'y fabriquer un film de zombies en un seul plan séquence avec des moyens qu'on qualifiera pudiquement de rudimentaires. Là où les choses se corsent, c'est que de véritables morts-vivants vont s'inviter sur le plateau avec des intentions moyennement pacifiques. Le film est signé Shinichiro Ueda, il a été tourné pour la somme modique de $27,000 par des étudiants d'une école d'art. Si on en cause, c'est qu'il a connu un succès grandissant depuis sa sortie fin 2017, puis récolté plus de $28 millions au box-office japonais, décroché une flopée de prix, dont un au festival de la Roche-sur-Yon l'an dernier, ce qui lui permet donc aujourd'hui de sortir dans de nombreux pays, dont la France. Votre avis sur One Cut of the Dead, les amis? Bon, Julien Dupuis n'est pas là, ce sera un autre rouquin qui va prendre la parole en premier, c'est David Honora.
Tu l'as dit, alors c'est un film d'étudiants,
oui.
Ça se voit assez vite, et d'ailleurs on va un peu décrire dévoiler la structure du film parce que...
Donc spoiler.
Et
donc
gros spoiler alerte.
En fait, pour moi c'est pas vraiment un spoiler, c'est plutôt, enfin en tout cas c'est pas un spoiler qui est négatif pour la vision du film, pour moi c'est une information que j'aurais eu besoin d'avoir.
Tu aurais aimé que je te dise avant que je regarde.
Non mais pour éviter de risquer de sortir de la salle avant la fin. Parce que les 35 premières minutes du film sont a priori vraiment très nulles, quoi. Enfin, on est vraiment dans un nanar, un film de zombies, alors qui a juste la particularité d'être filmé en plan séquence, mais c'est nul. Et en fait, on découvre au bout de 35 minutes, pendant lesquelles on a très peur que ça soit une heure et demie comme ça, que en fait, ce qu'on vient de voir, c'est une première mise en abîme, et on va au total dans le film avoir une triple mise en abîme si on compte les images pendant le générique où on voit le vrai film dans le film en train de se faire. Donc en fait, le film, ce qu'il raconte, c'est le tournage donc d'un drama dans un univers de zombies qui est tourné en direct et en plan séquence. Et la deuxième...
C'est important de le dire, c'est diffusé en direct à la télé.
Voilà, c'est fait pour être diffusé en direct, ce qui est quand même des contraintes qui rendent difficile de faire quelque chose de vraiment très bien. Et du coup, en fait, on découvre dans la deuxième partie du film toute la préparation de ce qu'on a vu au début. Et on arrive à un truc qui, en soi, je trouve assez audacieux, et je pense pas vraiment l'avoir déjà vu, en tout cas comme ça. C'est-à-dire que les 30 premières minutes, on va les revoir intégralement avec un point de vue différent. Qui donne en fait les coulisses du tournage de ce qui nous a été montré au début. Et j'ai pris beaucoup plus de plaisir dans les 35 dernières minutes que dans les 35 premières, parce que il y a un truc assez ludique à se dire, ah bah oui, je me rappelle de ce que j'ai vu, et pourquoi ce qui semblait être une anomalie ou un problème, bah en fait quel est le souci qu'ils ont eu sur ce tournage qui les ont amenés à ça. Et du coup, le film globalement, et je trouve ça intéressant en plus de d'avoir en tête que c'est un film d'étudiant, parce que c'est un film qui montre à quel point c'est compliqué de faire un film. Et en fait, même faire un film pas terrible, c'est finalement beaucoup de boulot et assez compliqué. Et il y a ce truc un petit peu, je trouve, attendrissant à voir ça, voir la fabrique en marche. Et c'est, ça fonctionne plutôt bien à ce niveau-là. Voilà, même si on n'est quand même pas du tout dans un truc hyper construit, hyper dingue, mais c'est une curiosité qui à ce niveau-là, tient la route. Si on sait que, en rentrant dans le film, que ce qu'on voit au début, ça fait partie du dispositif.
Stéphane ?
Le problème, en fait, c'est que je pense que le carton du film, il est bien au fait qu'on ne sait pas ça. En fait, j'imagine au Japon, parce qu'en fait, c'est une logique de film concept, en fait. C'est-à-dire, tout simplement, en gros, tu présentes les 35 premières minutes, et puis ensuite, en fait, tu les déconstruis pour expliquer comment elles sont arrivées. Donc, en gros, ce qu'il faut savoir, et ça, c'est un truc quand même assez clair à préciser, c'est pas un film de zombies. Techniquement,
non.
Vraiment. Donc il faut le dire pour les gens à qui on vend un film de zombies aussi, c'est ça le truc quoi. Et le deuxième truc, c'est que trouver ça attachant après derrière, c'est compliqué, parce que je pense que arriver en fait, parce que ça dure quand même très long, c'est très long en 35 minutes hein, quand tu regardes vraiment quelque chose de pourri, enfin hein, parce que c'est pourri hein. Et le problème, c'est que du coup c'est extrêmement difficile, parce que c'est les persos qui sont devant la caméra qu'on retrouve finalement derrière la caméra aussi, puisque et c'est les mêmes persos principaux. Et en fait, il n'y a pas de procédé pour les rendre attachants, en fait, en premier lieu. Et moi, je pense qu'en tout cas, en tant que spectateur, au bout de 35 minutes, j'en avais plus rien à foutre de ce qui pouvait se passer, quoi. Et le souci là-dedans, c'est que... Ensuite, je pense que la deuxième partie du film, on pourrait plus ou moins la résumer comme une espèce de nuit américaine avec des zombies, en gros, quoi. Et dans, par exemple, la logique du Z, parce que c'est un Z, hein, et c'est comment on fabrique un Z, moi, je trouve que Lloyd Kaufman, il s'en sortait beaucoup mieux dans Terror Firmer, il y a 20 ans de ça, quoi, déjà, en fait, quand il traitait, en fait, tout simplement l'incapacité, en fait, enfin la grande difficulté à faire du cinéma indépendant fauché, fait avec cœur, quoi. Et là, le problème, en fait, moi, que j'ai avec le film en soi, et j'imagine que c'est aussi parce que, justement, le procédé du film demande à ce qu'on fasse un plan séquence, donc, en fait, c'est comment les mecs vont galérer, finalement, à faire les 35 minutes en question. Donc, effectivement, ça revient à peu près à 20 minutes ou 30 minutes dans la dernière partie du film. C'est que, en gros, ils galèrent pendant 30 minutes. Ils galèrent pas pendant 3 ans pour faire un film indépendant, si tu veux, qu'ils ont essayé de monter à la sueur. Et là, en fait, j'aurais trouvé ça beaucoup plus...
Il y a quand même toute la préparation. On voit la préparation.
Hein, oui, mais la préparation, c'est un truc avec des mecs qui lui disent un mois avant, tu vois.
Non, il y a des répétitions, il y a quand même des
événements. Oui, mais c'est des micro-événements. C'est quelqu'un qui fait chier parce qu'elle veut pas qu'on lui crache dessus, ou l'autre qui dit, mais attends, je vais pas sortir cette ligne, tu vois, c'est quasiment rien. Enfin, si tu fais du cinéma, c'est les problèmes que tu vas avoir, quoi qu'il arrive.
Mais moi, ce que je veux dire, c'est que. Le parallèle avec la nuit américaine, c'est aussi l'histoire d'un tournage. C'est-à-dire que ça, effectivement, la difficulté de faire un cinéma, c'est aussi, il y a toute la production, tout ce qui est en amont, l'écriture, etc. Mais il y a aussi l'aventure du tournage, et le film est quand même plus centré là-dessus.
Ouais, après, en fait, encore une fois, le truc, c'est que il y a aussi, enfin, si tu t'intéresses à la mise en scène, on va dire entre guillemets, vu que c'est censé être un plus ou moins un found footage, en fait, la première partie du film, rien que le plan final, enfin le processus du plan final, en fait, du found footage, il est déjà pas cohérent, en fait, si tu veux, en soi, puisqu'en fait c'est une espèce de comment dire, d'envolée qui est pas cohérent.
En fait, surtout, c'est un plan de grue, mais alors après qui a quand même, à mon sens, un intérêt dans le film, et qui le rend attachant, parce qu'en fait il se sert du fait que dans la réalité on découvre que la grue qui devait servir pour le plan de grue final, donc comme tu le dis, qui a pas de sens pour un fond de footage, mais elle se casse pendant le tournage, et du coup, alors là c'est vraiment spoiler la toute fin du film, mais les personnages et les membres de l'équipe de tournage font une pyramide humaine pour pouvoir faire en se serrant les coudes rendre le plan de grue qu'ils avaient prévu.
Certes, alors
ce qui
le
est plutôt joli.
Sauf que oui, si t'acceptes en fait que c'est un réel de merde, le mec, tu vois, parce qu'en fait le mec se pose pas une seule seconde la question de la mise en scène, en fait, si tu veux, dans son propre truc à lui. Et en plus, ça devient d'ailleurs un vrai échange avec le producteur qui n'en veut pas du plan, ce qui est limite plus cohérent, en fait, qu'ils n'en veulent pas. C'est juste qu'ils disent qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Le producteur, en tant que processus artistique, il s'en fout. Sauf que quand tu connais un tout petit, c'est même pas une question d'analyse et la mise en scène, hein, c'est juste que ça colle pas, en fait, ça peut pas, c'est pas possible techniquement. Et c'est le problème d'ailleurs du plan séquence d'ouverture, c'est-à-dire qu'il y a plein de plans où t'es en train de le regarder et tu te dis, mais c'est nul parce que tu sais pas pourquoi c'est là. Et c'est pas cohérent en termes de comment dire, c'est juste un, on a réussi à le faire.
Voilà. C'est-à-dire, je crois qu'il faut attendre 7 ou 8 minutes pour que quelqu'un s'adresse à la caméra.
Oui, mais...
ouais, c'est-à-dire au caméraman. Jusque-là, moi, j'étais là, je me disais, mais c'est un fan footage ou c'en est pas un... Parce que le caméraman n'était pas un personnage jusque-là.
Et au-delà du fait que ça aurait quand même mérité de durer 1h10 et pas 1h35, tu vois, le truc, c'est que, bah, en fait, encore une fois, on traite d'un réal qui a pas l'air d'avoir de grandes idées de mise en scène, ou en fait, en tout cas, qui a pas l'air de se poser des questions sur tous ces trucs-là. Et en fait, on est censé avoir une empathie pour lui, parce que le prod ne le laisse pas faire ce qu'il veut faire, parce qu'il est en train de galérer sur, encore une fois, 40 minutes de tournage.
Mmh. Après, il est présenté comme ça, le réalisateur.
Oui, c'est ce que j'allais dire, il est présenté comme ça, en fait, depuis le début, ce mec-là. On te dit, clairement, ils viennent le chercher parce qu'il est average, parce qu'il est moyen. Le mec n'a jamais été un grand réal, en fait, toute l'idée. Moi, je trouvais ça un petit peu marrant qu'au bout de. Alors, j'avoue, moi, les 35 premiers, je reviens pas dessus. Parce que les 35 premières minutes, moi j'ai failli m'arrêter en cours de route, j'en avais vraiment ras-le-bol. Je trouvais ça vraiment affreux et je me suis dit, si c'est ça pendant 1h30, moi j'arrête là en fait. Et finalement, la découverte du système derrière, moi m'a plutôt au contraire un peu amusée. Il y avait cette idée à la Orson Welles, là, quand il avait fait son truc à la radio avec l'invasion
des.
Sur la guerre des mondes en fait, l'idée qu'il y avait vraiment une attaque d'extraterrestres. Donc ils veulent faire ça à la télévision. Dans l'idée, c'est que d'un seul coup, on est en train de faire un film et hop, ce film est pris par des zombies. D'un seul coup, on rejoue cette idée-là. Et en même temps, fait de la manière la plus cheap possible, parce qu'on comprend que c'est une espèce de tentative de télévision où personne ne veut vraiment mettre des moyens, et en même temps, on prend un peu les popstars pour que ça se regarde. En fait, je trouve finalement, il y a une petite critique intéressante qui ne va jamais trop en profondeur, et c'est peut-être là où le film, on sent qu'il est un peu léger et pas fait avec beaucoup de sous derrière, et peut-être que c'est un film d'étudiant, donc voilà, d'autant plus. Mais
pas beaucoup de l'amberge non plus. Hein.
Mais l'idée, c'est que moi j'aime bien cette petite critique d'un seul coup d'un système de tournage, c'est-à-dire c'est fait avec des gens qui ont une idée d'un concept, bah, on va refaire peur aux gens à la télévision en faisant semblant qu'il y a une attaque de zombies sur une équipe de télé, enfin sur une équipe de film. On va faire semblant de ça, mais on ne veut pas vraiment mettre les moyens. On prend quelqu'un de très moyen parce qu'on n'a pas envie de mettre beaucoup d'argent non plus. Ouais. On va prendre des gens qui sont des pop stars, donc ça va nous faire des vues, et en même temps ils sont casse-couilles et on sait pas du tout les gérer. Et en fait, finalement, ils nous expliquent à quel point un tournage ça peut mal se passer si on met pas les bonnes personnes aux bons endroits et qu'on réfléchit pas un petit peu à son concept un petit peu plus loin que ça. Donc le film, je trouve, il a une espèce de petite critique d'un système de cinéma à la chaîne ou de télé à la chaîne qui n'est pas vraiment pensé en entier, que d'un seul coup on, et en même temps il rend ça un tout petit peu attachant. Je trouve qu'il y a des trucs un peu excessifs surtout sur la partie sur la famille, où on s'en fout un petit peu, où on est sur la famille du réalisateur avec sa femme, sa fille. Bon, bah ça va servir un petit peu dans le film, mais c'est tellement pas si bien amené que c'est pas si intéressant. Mais en fait, je trouve le film au bout du compte ludique et assez marrant dans sa petite critique du système, en fait.
Arnaud.
Ouais, bon, non, moi j'ai trouvé ça complètement nul, mais.
Merci non, mais Arnaud. En fait, toujours un plaisir.
J'étais étonné parce que c'est vrai que j'étais allé voir avant sur IMDb, j'avais vu sur la fiche du film, c'était indiqué la note là, des gens qui fréquentent le site était à plus de 7, donc ce qui est beaucoup, hein, sur 10. Et je me disais, ah ouais, bah, ça doit être un truc assez original. Et pendant les 30 premières minutes, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont aimé, les gens là-dedans?
Ils ont été payés ou quoi?
Voilà, ouais. Et donc, bon, bah, j'arrive au truc, au milieu, et je me dis, bon, bah, alors effectivement, alors voyons voir. Le problème, c'est que je trouve que par cette sorte de making-of qu'on nous montre, ne propose pas beaucoup plus d'idées, quoi. J'avais vu le film comparé à Shaun of the Dead aussi, mais il aurait fallu, moi, je parle pas forcément d'idées de cinéma, quoi, mais au moins essayer de créer quelque chose avec des idées marrantes. Or, il y a deux, trois trucs qui prennent leur sens, des trucs de pur non-sens pendant la première demi-heure, pendant le plan séquence, comme la nana qui se relève avec la hache dans la tête, où on se dit mais qu'est-ce qui se passe, on comprend pas. Alors là, bon, il nous explique, voilà. Alors, il y a deux, trois trucs comme ça qui peuvent faire un peu sourire, mais finalement, c'est assez pauvre, on peut pas vraiment dire que ça fourmille d'idées. Effectivement, c'est bourré d'incohérences. Bon, et passé ça, donc, moi, j'ai eu un peu de mal à comprendre où était l'originalité du film. Quoi. J'ai trouvé ça très très pauvre. Quoi. C'est en fait, il aurait fallu, pour rattraper le ressenti de la première demi-heure qui est assez pénible, il aurait fallu un véritable feu d'artifice, quoi, ouais, pour dire ah oui, mais c'est carrément génial. C'est-à-dire, ils ont pris de la boue, ils en ont fait de l'or, quoi. Et c'est vraiment pas ça, quoi. C'est très déceptif, moi, je trouve. on attend pendant jusqu'à la fin du film. Moi, j'attendais qu'à un moment, ça se réveille et puis ça aille au-delà de ce concept qui aurait pu être marrant, encore une fois. Qui aurait pu faire avec même avec des bouts de ficelle, avec des idées. Quoi.
Ça fonctionne comme une comédie, hein, la deuxième partie, c'est ça le truc. Hein, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a la chiasse, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à avoir le truc au bon moment. Il y en a un autre qui est bourré, donc en fait, il
crée des petites interférences pendant le plan séquence inaugural pour pouvoir après en faire des gags. Mais on retient globalement 3-4 trucs, c'est tout. Quoi. Et puis après ça, c'est une redite du plan séquence. Mais effectivement, c'est très dérisoire ce que tu disais. Il n'y a pas de grosse galère non plus. Quoi. C'est pas un truc. Moi, il y a. Alors, Perrine a parlé de la famille du réalisateur. Il y a un petit truc à la fin où je me suis dit, ça aurait pu être touchant si le film avait été bien. C'est en fait que. Mais c'est vrai que, bon, l'idée du ce dont on a parlé, là, le mouvement de grue qu'ils font avec la pyramide humaine, en fait, lui, il revoit une photo ou un film, là, je sais plus.
Ah, c'est une photo,
de lui avec sa fille sur ses épaules, qui filmait sur ses épaules. Et où il regarde la caméra, il est tout fier parce qu'en fait, ils ont fait presque par hasard, en s'entraidant mutuellement, ça l'a renvoyé à ce qu'il faisait avec sa fille quelques années auparavant. Mais effectivement, comme il n'y a pas vraiment d'implantation émotionnelle de toutes ces choses-là, bon, c'est...
Oui, parce qu'en plus, en fait, c'est mal fait parce que quand on analyse ce que le film essaye de raconter, ça peut paraître sur le papier intéressant, mais dans le film, c'est pas très bien rendu, et notamment la relation entre le père et la fille. En fait, la fille, elle est hyper cinéphile, elle porte que des t-shirts de films d'horreur américains. Et en fait, elle méprise son père, qui est un réalisateur raté, mais ce truc, il n'est pas très bien mis en place. Quoi. Enfin, l'idée est pas mal, mais c'est pas bien rendu.
Après, l'autre problème avec un concept comme ça, pour moi, c'est que moi, je me pose la question de savoir, à part les quelques éléments disruptifs qui sont expliqués dans la deuxième partie, est-ce qu'en fait, eux considèrent que leur plan séquence est vraiment raté ou est-ce qu'il est réussi, tu vois. C'est ça,
c'est une vraie question.
Et le problème, en fait, c'est que j'ai quand même l'impression qu'eux, ils ont l'air de dire, ah, c'est quand même pas mal hein, ce qu'on a fait, tu vois. Et ils ont l'air de dire, bah non, c'est à chier. Et c'est à chier en tant que film de zombie.
Je pense qu'ils pensent même pas à ça. À la fin, c'est juste, on est content d'être arrivé jusqu'au bout du truc. Quoi. C'était un effort d'équipe qui était une équipe pas soudée au départ.
Sensation partagée par les spectateurs.
On est arrivé au bout du machin, quoi, donc on l'a fait.
Sauf que je pense que tout le monde à cette table est plus ou moins d'accord pour dire qu'en fait, on a quand même tous souffert sur les 35 premières minutes. Quand on te les balance dans la gueule, parce que encore une fois, c'est quand même un problème. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une question de produit final, tu vois. C'est-à-dire que quand on te présente ce film, même si tu connais le poteau rose, même si c'est dévoilé, même si tout ce que tu veux, à un moment donné, en fait, il faut que ça soit quand même regardable. Tu vois, au moins que ça soit présenté pour le spectateur comme quelque chose sur lequel tu sais plus ou moins sur quel pied tu es en train de danser. Et là, le problème, c'est qu'on se pose toutes ces questions-là. Et effectivement, comme c'est très pauvre, même dans la deuxième partie, de la façon dont on essaie de t'expliquer le truc, tu te dis, ok, donc en fait, je suis censé m'attacher à un mec qui est réalisateur moyen, qui n'a pas l'air de trop réfléchir à la mise en scène en vrai, puisqu'apparemment, il a pas l'air de se poser des questions de comment on fait un fan footage vraiment. Apparemment, il a un peu galéré. Donc les galères, c'est juste qu'en fait, pour éviter en fait, qu'on voit qu'ils sont en train de faire du faux sang ou du je sais pas quoi, il tourne la caméra pendant 5 minutes sur l'actrice principale qui est en train de gueuler. Mais bon, enfin, sauf que t'es en train de regarder la scène en fait de l'actrice qui est en train de gueuler pendant 5 minutes, tu vois. Donc t'es en train de dire.
Non, mais moi, je pense que le problème, truc, encore une fois, c'est que t'avais. Termine, tu vois.
Moi, je pense que le problème, en fait, de ce film, c'est que j'ai l'impression qu'il aurait dû être fait presque à l'envers, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on t'aurait dû te montrer toute cette galère, en fait, dès le début. En fait, on aurait dû te mettre le résultat. Bah ouais, mais le problème, c'est qu'en fait. Le réussir. Tu vois, c'est ça le truc. Le
concept, fait beaucoup d'éléments supplémentaires.
Mais le concept, c'est pas la réussite ou pas du film de départ, en fait. C'est plus c'est comment il est fait, en fait. Ça n'a jamais. Le film de départ, on s'en fout, en fait.
Mais
quand je vois un mauvais film, je me demande pas comment il est mal fait, en fait.
Une fois, moi, Steph, je pense que globalement, ça aurait été intéressant de passer de une demi-heure de Ed Wood à 45 minutes de Shaun of the Dead, tu vois. C'est-à-dire, ça aurait été, on l'aurait oublié, la difficulté des 35 premières minutes, si on avait vu un truc virtuose qui, d'un coup, en nous déconstruisant ce qu'on venait de voir, avec beaucoup de gags, beaucoup d'émotions, vraiment très écrit, nous faisait. Ça aurait été inédit en plus comme truc vraiment.
Parce que là, ça ressemble à un sitcom japonais.
Mais en même temps, c'est le but du jeu.
C'est un peu l'idée.
Ouais, super.
Voilà. Pour terminer, on va faire comme. J'écarte les bras, effectivement, Arnaud. On ne le voit pas à la télévision.
On dirait Tom Hanks dans Seul au Monde quand il fait du feu.
Tout à fait, mais c'est moi. C'était moi dans le film.
Le Jésus du podcast.
On va faire. C'est moi aussi. C'est au niveau de la barbe que vous dites ça. On va faire donc, comme j'allais dire, un tour de recommandation. Comme d'habitude, quelque part. On peut rester dans le cinéma asiatique, le cinéma d'horreur, mais vous faites comme vous voulez, Perrine.
Moi, j'ai envie de citer la Cité de la Peur. La Cité de la Peur, parce que
oui, ça ressemble à Red Is Dead.
Bah oui, parce qu'au départ, il y a ce truc de Red Is Dead où on regarde le truc et on fait pardon, et c'est n'importe quoi. Et après, derrière, on rentre non pas dans une critique de comment. comment on fait un film, mais plutôt de tout le système qui va derrière, des attachés de presse, de la distribution, des festivals, de ce genre de conneries par lesquelles pas mal de films sont obligés de passer, en fait, et qui est notoirement assez ridicule la plupart du temps, et qui ils en tirent tout le ridicule. Et pour le coup, il y a un vrai sens du timing comique. Enfin, j'apprends à personne à quel point La Cité de la Peur, c'est un film assez culte et très très drôle. Mais moi j'aime bien parce que ils refont ce système-là un petit peu ce qu'avait compris La Cité de la Peur, est-ce que ne comprend pas très bien Ne coupez pas, c'est ça ?
En VF, oui.
D'ailleurs, c'est drôle, Ne coupez pas, parce que c'est Attention chérie, ça va trancher.
Tout à fait. Dans l'autre, c'est pas fait exprès.
C'est vrai. Mais Ne coupez pas, c'est que les blagues les plus courtes sont les meilleures aussi, et qu'au départ, la blague, elle aurait mérité d'être un petit peu plus courte pour qu'on s'attache un tout petit peu plus au reste du film, en tout cas.
David.
Moi j'ai pas vraiment de reco.
Donc
j'ai des notes, émission, c'est marqué reco 2 points, et du coup j'étais à deux doigts de recommander Anaconda, mais du coup j'ai quand même
tu peux pas faire ça.
C'est interdit.
Non, il y a un copyright voilà.
Non, j'ai quand même improvisé une reco, et j'en parlais hors antenne juste avant. C'est on a autour de la table deux scénaristes d'un film de zombies. je veux pas recommander le film que vous avez tous vu en tant qu'auditeur de nos ciné, mais la Horde, ça peut valoir le coup d'œil. Et en fait, sur l'édition DVD, il y a un autre truc qui vaut vraiment le coup d'œil, c'est le making-of, et qui, moi, me fait aussi penser à ça, c'est-à-dire que faire un film, et notamment la scène, par exemple, la scène du parking, tu la vois dans le film, elle est hyper efficace dans le film, et c'est hyper intéressant de voir comment elle a été tournée, et voilà, donc un making-of de film de zombies.
Tout à fait.
Scénarisé par deux personnes. Alors, je sais pas combien de temps il dure, le making-of. 12 minutes, 20 minutes.
12, 15 minutes. Ouais.
Et on voit comment Yannick, notamment.
Et Benjamin Rocher
se font pote avec les gens de la cité pour que ça se passe bien sur le tournage. Donc voilà, le making-of de la Horde.
Très bien. Arnaud.
Merci, je te donnerai ton petit billet après.
Ça se passe comme ça.
Mais moi c'est un peu au débeauté aussi, parce que j'avais pas pensé avant, mais ça m'est venu pendant le...
T'as vu ça, les mecs, ils pensent jamais à leur reco.
Pas les reco.
Oui, parce que le mec a la même d'autres. Depuis 10 ans.
Ah, alors, justement, c'est préparé.
Je l'ai pas vu depuis longtemps, mais je me rappelle que ça m'avait fait une très bonne impression. C'était le film qui était sorti, alors je sais pas s'il est sorti depuis en Blu-ray en France, mais qui était sorti à l'époque en DVD, Necronomicon, qui était un film à sketch, produit par le défunt Samuel Adida, si je ne m'abuse, et dont un des sketchs était réalisé par Christophe Gans. Et en fait, alors c'est vrai que le DVD, je me rappelle, était assez axé sur Christophe Gans, hein, puisque c'est un cinéaste français. Et il y avait donc un très bon documentaire dedans qui, si je me souviens bien, s'appelait Dans l'enfer du B, ou quelque chose comme ça, quoi. Et qui racontait, alors pour le coup, c'était assez épique, quoi, parce que ça racontait, alors le film n'est pas bon, hein, Necronomicon, quoi, c'est pas un mémorable comme film, mais c'est une série B à l'américaine, tirée avec 3 sketchs tirés de Lovecraft, plus ou moins, de manière plus ou moins littérale, quoi. Mais le documentaire, en fait, se centre sur ce petit Français, c'était son premier... pas long métrage donc, mais moyen métrage on va dire, sur ce petit Français parti à Hollywood pour essayer de faire son trou, et qui se retrouve confronté à cette industrie, à toutes les négociations que ça implique, les renoncements, les bouts de ficelle et tout comme ça. Et c'est vraiment un très bon doc. Je me rappelle même que je m'étais dit c'est appréciable d'avoir ça sur le DVD, vu que le film est pas terrible, quoi. Et voilà, c'est assez touchant par moments même, et ça te montre pour le coup vraiment qu'est-ce que ça peut être, l'infinité de galères qui se présentent à toi quand tu te lances dans un truc comme ça, quoi. Voilà.
Et pour le coup, en plus, sur le DVD, il y avait le premier court de Gans.
Silver Slime.
Qui est pour moi son meilleur film. Hein. Mais vraiment, en plus, c'est un... Non, mais en plus, c'est ça sans ironie aucune. Hein. C'est un hommage au giallo, et c'était vraiment super, quoi.
Stéphane.
Mais comme Arnaud est là, je vais pouvoir faire un making-of de ma reco.
Ah.
Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est Arnaud qui m'a dit, tu sais quoi, tu devrais faire une reco, une seule, pendant 6 mois. Tu vois, et voilà, donc si vous avez des problèmes avec cette logique-là, c'est à cause d'Arnaud. Et en fait, je lui ai dit, mais attends, je fais quel film, tu vois? Puis en fait, on s'est mis d'accord sur Anaconda. Voilà.
Je nie toute responsabilité, je dément.
Non, c'est vrai. Mais c'est vraiment. Attends, il n'y a même pas de blague, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Par contre, le truc, c'est qu'il y a une vraie gloriole aussi, si tu veux, sur cette reco, parce que ça, c'est un truc qu'on n'a pas dit encore dans nos ciné, me semble-t-il, tu vois. Mais en fait, il y a une fin heureuse à cette histoire de reco. C'est qu'en fait, si vous allez sur la fiche Wikipédia du film, je suis cité.
Non.
Si, si.
Mais non.
Si, si.
Non.
Si, si,
le Wikipédia cité. Français, ouais.
Voilà, c'est le film préféré de
Stéphane. Il a écrit, c'est le film préféré de Stéphane Moïsakis.
Je sais pas combien de temps ça va rester.
Alors bon, je sais, ouais, ça s'est peut-être plus, hein, finalement, quand, voilà, peut-être
qu'il y a. C'est basé sur des
peut-être qu'il y a le vrai mec qui aime vraiment Anaconda qui vient dire non, c'est moi, c'est mon film préféré à moi, il demande à Wikipédia de changer le truc, tu vois. Mais voilà, donc comme quoi.
C'est un life achievement, quelque part.
Hein. Ouais, et puis en plus, j'ai envie de dire, tout ce qui est dit sur Internet est vrai, donc.
Oui, c'est vrai.
Alors le lien.
Donc Anaconda est le meilleur film de l'histoire du cinéma.
Et le lien avec One Cut from the Dead? For the
aucun.
Cut for the dead.
Of the dead.
Of Arnaud, the dead. Je viens de faire un making of de mon truc, ça. Tu ne
pas. Ah oui, c'est un making of. Ah oui, bah voilà, c'est ça le lien. D'accord.
Ok.
Allez, n'en demandons pas trop à Stéphane. C'est déjà beaucoup de trouver à chaque fois une nouvelle manière de nous vendre Anaconda.
Merci Thomas, toi,
à chaque émission.
Quoi.
Je te comprends. Notre temps est écoulé. Merci à tous les quatre. Merci à Solène à la technique, à Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
Binge.
Fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.